Le Péri, voix du pays. Cet été, dans le cadre du projet Landscape, mené avec le réseau AJC et le Bimuis d'Amsterdam pour réfléchir à de nouvelles manières plus écologiques de produire des concerts, le Périscope a fui la ville pour observer d'un peu plus près comment certaines et certains font vivre la musique live en campagne. Épisode 3, sous tout petit village rempli d'idées dans la Drôme.
Il y a un phénomène à Soue un peu particulier qui fait que depuis une bonne trentaine d'années, c'est un village qui se développe, qui rencontre un succès, qui est lié à plein de facteurs différents.
Nicolas Goguet, l'un des trois associés du bar-restaurant culturel, le Gasoline Palace.
Il y a une forêt départementale de 2500 hectares qui est un vrai joyau du département et qui accueille 150 000 personnes. Il y a des restaurateurs très dynamiques qui se sont installés au fil du temps et qui ont fait la renommée du village. Il y a des événements qui existent depuis longtemps, en particulier le festival Soue Chante Mozart, la fête du Picodon, la foire aux fruits d'hiver, qui créent aussi une notoriété. Il y a des nouveaux habitants qui viennent, qui aiment cette ambiance et qui eux-mêmes y contribuent. Aujourd'hui, il y a, 25 associations à l'échelle d'un village de 600 habitants. Donc oui, il y a une alchimie particulière qu'on ne rencontre pas forcément dans tous les villages périphériques.
Et cette alchimie unique qui fait de ce petit village de Soue une incontournable plaque tournante de la musique live en Drôme, elle est actuellement entretenue par trois établissements. Le Gasoline Palace, donc, un ancien garage auto que Nicolas, avec ses amis Michael et Laurent, ont reconverti l'année dernière en café-concert vintage grâce à leur flair très aiguisé pour la récup. L'Oiseau sur sa branche, le restaurant central de Soue depuis plus de 150 ans, tenu par l'inimitable vétéran Thierry Chalençon. Et enfin, le Poney Fringant, la taverne menée par Olivier Graef depuis 2021, qui tire son nom et sa convivialité de l'auberge préférée des Hobbits dans Le Seigneur des Anneaux. Et même si le périmètre à se partager n'est pas bien grand, vous l'aurez deviné, tout ce petit monde vit en complète harmonie.
Très bonne entente. On les appelle Gazo, hein, pour les trois propriétaires, les trois lurons du Gazo, sont devenus des très très bons copains. C'est des enfants du pays. Hein.
Olivier Graef, patron du Poney Fringant.
Et puis ils ont fait quelque chose, je trouve, de remarquable. Leur lieu est bien plus grand que le Poney Fringant. Hein, tu le verras tout à l'heure si tu le connais pas. Mais avec très peu de moyens, ils ont créé une vraie âme et une belle dynamique. Donc voilà, ça se passe très très bien avec eux. Ouais. Avec l'Oiseau aussi. Bah, les débuts ont été un peu plus normal. Hein. C'est qui c'est ce Lyonnais qui débarque, hein, qu'est-ce qu'il veut faire. Mais moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Thierry et tout ce qu'il a fait ici. Je l'ai dit souvent d'ailleurs, parce que je pense que parfois certains sont un peu rebutés par son caractère bien trempé. Mais il ne faut pas être dans l'oubli, hein, de tout ce qu'il a fait. Et je pense que si le village est ce qu'il est aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui.
Au début, quand j'ai ouvert ici, il n'y avait rien. C'était mort sous, rien à voir avec maintenant.
Thierry Chalençon, capitaine de l'Oiseau sur sa branche.
Donc j'ai fait un groupe de musique jusqu'en 2000-2001. Un groupe de musique tous les vendredis soirs l'été. Tous les vendredis soirs, je faisais un groupe de musique. Et puis en 96, j'ai créé les Nuits de Pleine Lune. Et ça a découlé en 2001 que j'ai fait mes nuits de pleine lune en pleine lune de jazz. Et maintenant, je fais toutes les pleines lunes, sauf juillet-août, en jazz. Jazz qui est dirigé par une association qui s'appelle Dessous de Jazz, où Christiane et d'autres gens s'occupent avec bonheur au niveau programmation. Chaque fois, c'est vraiment très bien. Et c'est, on a une 70-72 personnes de moyenne, tu vois, c'est pas mal. Hein. Mois de novembre, hein. C'est pas juillet ou c'est le mois de novembre, reste le mois de novembre dans notre campagne.
Mais quand il récupère en 1993 ce restaurant qui a d'ailleurs presque toujours appartenu à sa famille, Thierry a déjà tenté pas mal de choses, notamment dans le domaine culturel.
Tu vois, je m'amusais quand gamin, je faisais... Je voulais faire une MJC, donc on avait fait des petits... On voulait gagner du fric pour créer une MJC, ça n'a pas marché. Après, on avait une boîte de nuit entre nous, mais une boîte de nuit qui a duré 10 ans. Et je suis sûr que ça a été C'était un sacré truc à Soue, hein, des souvenirs extraordinaires dans cet endroit, qui était coopératif. C'était pas du tout, il n'y a aucune loi, il n'y avait pas de patron, il y avait, c'était, voilà, on avait un lieu et on s'amusait. Le Yukukri Club. 74-81. Non, 73-81. C'était vraiment une communautaire, vraiment, vraiment. Sans taper dans du hippie ou des trucs comme ça, mais c'était plutôt intelligemment fait. On s'est bien marré. On a pris quelques cuites également.
Bref, depuis la reprise du restaurant par Thierry et le lancement quelques années plus tôt du festival de musique classique Sous Chante Mozart, que Nicolas du Casoline Palace évoquait en introduction, Sous s'est complètement revitalisé. Mais cette dynamique est aussi plus globale, ce qui fait de la Drôme, désormais, un territoire riche d'artistes et de musiciens locaux.
C'était d'ailleurs une chose que j'ai découverte ici, aussi ici, au début, quand je suis arrivé, j'avais un réseau sur Lyon de musiciens, donc j'étais un peu parti dans l'idée de faire aussi découvrir, d'amener des choses nouvelles dans le village, ce qui arrive encore et ce qui est intéressant. Mais j'ai aussi, moi, beaucoup appris de la découverte d'artistes locaux qui sont pas juste des saltimbanques à deux balles, pas du tout. Il y a des très très bons artistes qui n'ont pas énormément de lieux aussi pour jouer, finalement. Donc qui vont jouer ailleurs que dans la région, mais qui sont du coup très intéressés pour disposer d'un nouveau lieu comme ici ou comme au Gazo.
Le local amène cette énergie, on va dire cette rencontre entre les gens du territoire, parce que tout le monde ne se connaît pas forcément. Ça a cet intérêt-là.
Michael Bell, co-créateur du Gasoline Palace.
Et après, aller chercher des trucs plus importants et plus reconnus, ça a aussi l'avantage à un moment de pouvoir accéder à vraiment quelque chose de qualité, qu'on est reconnu. Dans des petits lieux en milieu rural, quoi, alors que c'est des choses qu'on irait plutôt voir dans les villes autour d'ici, quoi. C'est génial, on a pu avoir des groupes, on a eu des groupes américains parce qu'on bosse avec un tourneur qui est en Belgique et qui fait tourner que des groupes de rock américains. Donc maintenant, lui, dès qu'il a des groupes qui tournent entre le nord de l'Italie, on va dire, et qui repartent sur le nord de la France, eh ben, on est en contact et on cale au milieu des passages. C'est aussi une petite pause pour les artistes qui sont dans des grosses tournées, parce que souvent ces gens-là, ils partent 2-3 mois, et pendant 3 mois, ils ont 2-3 jours off au milieu, c'est bien dense. Donc on fait en sorte de les accueillir tranquillement, ils ont un petit gîte à sous. Souvent, le dernier qu'on a eu, c'était Elysian Fields, et quand il est sorti de son 22 mètres carrés à Brooklyn et qu'il a fini en haut du Rock là-haut, à sous, bah, ça lui a fait bizarre, et il s'est dit c'est génial, et maintenant chaque fois qu'ils reviennent en France, ils nous rappellent en disant bon, on peut revenir, on est là à telle date.
Mais je dirais, au-delà de ça, peut-être que les plus grands plaisirs que j'ai eus, c'était sur des choses qui n'étaient pas programmées, qui n'étaient pas planifiées. De musiciens qui sont arrivés et qui se sont mis à jouer sur une soirée qui est devenue pour moi d'anthologie, parce que justement tu t'attends pas à ça, et que t'es, c'est la magie en fait de l'éphémère aussi. Ça, c'est vraiment je pense à Daniel Mill, ce magnifique accordéoniste, magnifique musicien qui avait passé 3 soirées à donner une masterclass improvisée à des jeunes musiciens pros qui passaient par là. Ça, c'est vraiment c'était magique.
À Sous, la conscience écologique est assez présente. D'abord parce que le village est intimement lié à sa forêt du même nom, site naturel classé de 25 km² qui abrite un écosystème particulièrement riche. La Drôme également est depuis les années 70 l'un des territoires les plus en avance en matière de préservation environnementale et d'agriculture biologique. Il n'empêche que quand Thierry reprend l'oiseau sur sa branche au début des années 90 avec l'idée de se fournir à cheval et pas plus loin que 30 lieues autour dessous, c'est encore un peu compliqué à mettre en place.
C'était l'idée au départ. J'étais en Afrique, je suis revenu en France. Et en Afrique, je fantasmais là-dessus. Je disais, tiens, si je mets... Mais j'aurais pu le faire en Afrique, je regrette de ne pas l'avoir fait. Toujours est-il que c'était mon credo. Je voulais faire que du local. Le bio, je m'en foutais un peu, mais que du local. Et puis, ben, il y a 30 ans, c'était 31 ans, c'était très compliqué. Bon, j'y suis quand même arrivé. Et ça s'est ouvert de plus en plus. Et à l'époque, on était en deçà des demandes, mais non, c'est exponentiel, quoi. Tous les jours, il y a un nouveau produit qui arrive. Bon, il y a 23 ans que je fais plus de coca, je fais plus de marque. Voilà. J'adore le coca, hein, j'adore l'Orangina, mais je fais plus de marque. Ça, je lutte contre l'uniformisation des goûts, tu vois, je suis... que tu sois en Courage ou au Cap ou à Sous, tu demandes un coca, c'est normal qu'on t'en serve un. Ben non, c'est pas normal. Moi, je suis contre ça. Donc, quand on a arrêté de faire du coca, c'était une révolution. Les gens ne comprenaient pas, mais on a eu pas des gros problèmes, mais des trucs assez marrants qui sont passés. Alors que maintenant, c'est classique, quoi. Tu vas dans un endroit où il n'y a pas de coca, tu dis oui, d'accord. Et ça, moi, je sais que j'étais le seul. Vraiment. En tout cas, dans le Rhône-Alpes. Hein. Je peux dire que j'ai cherché. Hein.
Par ailleurs, sans même parler de cuisine, l'intérêt écologique d'avoir plusieurs programmations musicales dans des villages aussi petits que Sous, c'est tout simplement que les publics alentours ne sont plus obligés de rejoindre la grande ville pour écouter de la musique live.
Mais on a aussi des gens qui viennent de plus loin, des fois, ici, exprès, parce que le groupe leur plaît. Donc je sais pas, faudrait faire le calcul.
C'était ça, pour Nash, on a des gens qui sont venus d'Antibes, on était gênés. Mais en même temps, eux étaient vraiment réjouis. Donc après, où on situe l'écologie là-dedans, je sais pas, mais parce qu'il y a le facteur humain, quoi. Mais on était, on a dit non, ça fait vraiment un gros déplacement. Bon, après, ils se sont pas déplacés pour rien parce que le lendemain, ils ont été la voir jouer à Valence.
En tout cas, si Sous et son insolent dynamisme culturel font pour l'instant figure d'heureuses exceptions, rien n'empêche que d'autres villages en France suivent son exemple et que la réussite de l'oiseau, du poney et du gasoline en inspire d'autres.
On a eu plusieurs échanges avec des gens qui venaient de plus loin, des Hautes-Alpes, d'Ardèche ou des baronnies et qui disaient « Oh là là, venez dans notre village créer un lieu comme ça ». Donc nous, on se mariait en disant pourquoi pas, mais pourquoi ? Faites-le vous-même, en fait, cet esprit-là, moi, je pense qu'il peut exister de partout.
The manhole cover, the hole, the main,